On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe.
Cette semaine, à l'émission, Emmanuel Lamontagne s'intéresse aux rituels et symboles de la lutte. Édouard Chatov croit à la résurrection des morts et Sarah-Christine Bourriane témoigne de l'accompagnement de sa mère en fin de vie. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, ici Simon Lessard en compagnie de ma co-animatrice Ariane Blais-Lacombe. Bonjour Ariane.
Allô Simon.
Alors, ça va bien?
Oui, ça va bien.
La grossesse avance?
Ça avance, oui.
C'est pour bientôt, j'ai l'impression.
Tu vas replacer mon bébé, là. Il est pas mal dans les côtes.
C'est beau, ça fait une personne de plus en studio.
Mmh, oui, j'y avais même pas pensé.
Joyeuse Pâques encore, Ariane.
Encore?
Ben oui, Pâques. Le temps pascal, en tout cas, ça dure 50 jours, hein? C'est bien ça?
Oui, est-ce qu'on va faire ça chaque semaine?
Ben, on verra. Au moins, aux deux semaines, je trouve que c'est pas encore de l'abus.
C'est bon, c'est bon.
Aujourd'hui, une belle émission avec, entre autres, le père Édouard Chatov. Bonjour, Édouard.
Bonjour.
Alors, tu vas nous parler, toi, de résurrection, parce que, justement, on est encore en temps pascal.
Tout à fait. Je vais évoquer cet aspect de la vie de tout être humain dont les chrétiens croient, la résurrection, mais cette vie éternelle ressuscitée est donnée et offerte à tout l'être humain. Et aussi, on évoquera peut-être quelques images qui traînent dans la tête de tous les gens, ce qui peut-être permettra encore les conversations. C'est la poule, l'œuf et le lapin. Pas forcément seulement en chocolat, mais en tout cas, l'œuf, la poule et le lapin de Pâques.
Bon, alors, la petite ferme que tu as apportée aujourd'hui en studio pour nous.
Oui, tout à fait.
Merci, Père Édouard Chatov, en tout milieu d'émission, on t'écoutera là-dessus. Emmanuel Lamontagne, bonjour.
Bonjour, Simon.
Alors, très original ton sujet aujourd'hui. Tu veux aborder avec nous les rites symboles de la lutte?
Oui, la lutte professionnelle, pas de la lutte olympique.
Ah, pas amateur, là, des vrais.
Des vrais lutteurs, dans ce qui est considéré comme lutte professionnelle. Et les similitudes parfois étonnantes qu'il peut y avoir avec certains rituels religieux dans le monde de la lutte professionnelle. Donc, je vous en dis pas plus.
Je vois les yeux d'Ariane. Je
très pense intriguée.
Elle a beaucoup de points d'interrogation. Ouais. Tu auras tout un travail pour la convaincre, j'ai l'impression. Merci d'être là. Sarah-Christine Bourriane, bonjour.
Allô.
Alors, aujourd'hui, avec courage, je dirais, tu viens quand même nous témoigner d'une expérience très forte que tu as vécue assez récemment.
Oui, ça combine un peu la lutte, mais une autre forme de lutte, et la résurrection. Oui, ben, j'ai accompagné ma mère au chevet de sa mort, donc c'est vrai que c'est un sujet un peu moins léger, là. C'est pour ça que c'est à la fin. Mais oui, elle est décédée le 18 janvier dernier. Je l'ai accompagnée durant une quinzaine de jours à l'hôpital. Donc, ça a quand même, ça m'a vraiment beaucoup marqué comme expérience. Puis, ça me marque encore, comme vous le constatez.
On a tous très hâte d'entendre ça. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu seras notre dessert aujourd'hui.
Bon, merci.
Alors, Ariane, est-ce qu'on fête quelque chose cette semaine, à part évidemment Pâques?
Oui, c'est toujours Pâques, mais c'est aussi cette semaine le jour de la Terre, hein, le 22 avril.
Je ne savais pas.
Et je te l'annonce. Puis en fait, je trouvais que c'était un thème intéressant parce qu'avec le pape François, l'écologie intégrale, on sent que c'est de plus en plus un souci dans l'Église. Puis je me suis demandé, si nos Églises veulent être plus vertes, quelle est leur source principale de pollution? Et là, ce n'est pas la question de mon quiz parce que je n'ai pas trouvé de réponse là-dessus. Mais
c'est sûrement le chauffage.
Le chauffage, je pense.
Moi, je pense que oui.
Le déplacement des prêtres entre les paroisses qui s'agrandissent de plus en plus.
Des prêtres, pas sûr. Peut-être des fidèles, mais pas des prêtres.
Peut-être
pas
tant que ça. Mais bref, je suis tombée sur la question de la pollution sonore causée par les églises. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'en Afrique, il y a plusieurs pays qui se sont mis à adopter des législations récemment pour restreindre la pollution sonore causée par les églises, les bruits émanant des églises.
Puis là, c'est beau, des sons de cloche, il me semble.
Bien, c'est vrai, ça peut devenir beaucoup. Mais je me suis dit, mais coudonc, combien de fois par jour est-ce que les cloches sonnent, coudonc?
De moins en moins aujourd'hui.
De moins en moins. Mais j'ai envie de vous demander, traditionnellement, quand et pourquoi est-ce que les cloches d'une église devraient sonner dans une journée?
L'Angélus.
L'Angélus.
Ça peut être jusqu'à
combien
trois fois par jour, l'Angélus.
7 heures, midi, puis en soirée de 8.
6 heures. Normalement, je pense que c'est 6, midi, 6.
Quoi d'autre? Est-ce que c'est les seuls moments?
Ben, avant la messe, non? avant la messe pour dire aux fidèles venez-vous-en.
Pour appeler les fidèles pendant la messe aussi.
Pendant la messe, à la vigile pascale, au Gloria.
Oui, pendant la messe, dans la tradition ancienne, on sonnait les cloches pendant la consécration.
Ah oui, dans certains monastères encore aujourd'hui.
Oui, tout à fait. C'est quand la cloche dans le chœur sonnait, le carillon sonnait aussi. Donc, on savait qu'en ce moment, il y a le grand mystère qui est célébré. Dans les monastères, on sonne les cloches une heure avant l'office. 15 minutes avant l'office, 5 minutes avant l'office. Et donc, l'office a lieu 7 fois par jour. Donc, on sonne à toutes
tout
ces séquences.
Fait qu'on peut comprendre les gens qui habitent proche d'un monastère, peut-être, de cette année, des sons de cloche toujours. Puis je rajoute à ça aussi les baptêmes, les mariages et les funérailles.
À la fin, hein?
Donc, c'est vrai que ça peut faire beaucoup, mais de nos jours, en tout cas, au Québec, il me semble qu'on les sonne pas si souvent que ça. Puis en tout cas, pour ma part, je trouve ça quand même réjouissant d'entendre les cloches.
Il y a aussi à la mort d'un pape, mais ça arrive pas à chaque jour.
Tout à fait.
Peut-être moins une cause de plainte, là, quand même.
Il y a de la fumée aussi, c'est une autre pollution.
Et ce qui peut-être il faut aussi rappeler que nous avons changé un peu le contexte. Avant, les cloches, c'était une communication. Chaque sonnerie a communiqué quelque chose. C'est-à-dire le son d'Angélus n'était pas le son avant la messe et le son de consécration n'était pas le même. Le gland de défunt n'était pas le même. Donc tous les alentours savaient quelle est la nouvelle pour cette communauté qui habite autour du clocher qui est transmise? Aujourd'hui, c'est juste ça sonne et on ne sait même pas pourquoi.
Mmh. Et on va sur Twitter pour savoir qu'est-ce qui se passe.
Un marqueur de temps et un facteur de communauté. Voilà. Merci beaucoup, Ariane. Alors, c'est parti pour cette émission.
On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement.
La lutte fait partie de notre culture et de notre histoire québécoise. Sport spectacle populaire ou théâtre acrobatique postmoderne, elle déchaîne les passions aussi bien de ses amateurs que de ses opposants. Incursion dans les coulisses de ce show dont vous êtes le héros avec notre chroniqueur Emmanuel Lamontagne. Salut Emmanuel.
Bonjour Simon.
T'es un passionné de lutte,
ouais,
toi.
Oui, il faut le dire. Je me souviens pas d'un moment où je n'ai pas écouté la lutte, tellement j'étais petit quand j'ai commencé à écouter la lutte. Donc, je fais partie des partisans, pas des opposants de la chose.
OK. Mais là, la lutte, là, c'est quoi? De quoi qu'on parle quand on parle de la lutte? C'est-tu un art? C'est-tu un sport?
C'est tout ça à la fois. En fait, c'est une question qui est difficile, ça, ce que tu me poses là pour commencer la chronique, parce que c'est assez inclassable, la lutte. Le côté sportif est indéniable, c'est-à-dire que c'est des athlètes professionnels qui vont faire ça. C'est des gens qui sont très en forme, ça prend énormément de cardio. Il y a beaucoup, les chutes sont réelles, donc il y a vraiment un haut prix physique à payer pour pratiquer ce sport-là. Mais en même temps, tout ça est prédéterminé. Donc, c'est pas un sport au même titre, par exemple, qu'une partie de hockey où c'est vraiment la performance physique qui va faire qu'on va avoir le dessus sur l'autre équipe ou dans des sports individuels comme l'escrime, par exemple. Vous faites la meilleure feinte, vous avez le dessus sur la personne en face. Tous les résultats sont décidés d'avance. Donc, on ne peut pas parler de sport à proprement dit pour définir la lutte. Donc, il y a une partie spectacle. Évidemment, les coups sont portés, mais ils ne sont pas à impact plein non plus. Donc, il faut faire semblant d'avoir mal pour que les gens croient que vous êtes en train de souffrir le martyr dans une prise de soumission. Donc, c'est difficile de classer ça comme sport. Mais en même temps, ce n'est pas du théâtre non plus parce qu'il y a tout le côté sportif, justement, que je viens de décrire auparavant.
Il y a de l'improvisation aussi.
Il y a une partie d'improvisation aussi là-dedans. Donc, les lutteurs sont à la fois des acteurs et des sportifs. Ce qui me fait dire, moi, personnellement, la définition que j'ai le plus aimé, c'est tout récent. Là. C'est dans un documentaire qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps à Historia. C'est Marco Estrada, qui est un lutteur des Maritimes, qui parle de sport, S-P-A-R-T. Donc, un mix de sport et d'art.
Ah, c'est intéressant.
Donc, une forme de théâtre extrême, si on veut.
Mais tu as dit que l'issue était décidée d'avant.
Oh, oh, oh,
qui décide?
Il y a un scripteur. Il y a un scripteur, comme dans tout bon...
D'ailleurs, Emmanuel a déjà été scripteur de lutte.
J'ai déjà fait ça. Comme dans tout bon show de télévision, il y a quelqu'un qui va écrire les histoires à l'avance. Donc, on sait, par exemple, que si moi, je suis en rivalité avec Simon, ça va finir dans 4 mois d'une façon où Simon a le dessus.
À long terme, comme ça, pas juste individuellement non, le ça. Combat. Okay, c'est... Ben, il y a une
tant
grande...
que c'est moi qui gagne en bout de ligne, je suis d'accord.
Mais c'est qu'il y a une...
Je vous regarde, là. Je pense que je viserais sur Emmanuel.
Il y a une progression dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des... À long terme, on sait où est-ce qu'on veut aller parce que tous les lutteurs ont un personnage là, en partant. Donc, on va savoir où est-ce qu'on veut amener le personnage, quelles émotions. Comme dans un téléroman. Je veux dire, il y a un script qui est donné.
Parce que si c'est un sport, le fait que ce soit fake ou prévu d'avance, ça perd son intérêt.
C'est pas fake.
Si c'est comme un film, les films aussi sont scriptés puis le scénariste sait d'avance qui va gagner ou perdre le combat entre le bon et le méchant.
Moi, j'irais pas jusqu'à... Fake, non. Parce que, comme je dis, ça fait mal. Je veux dire, prendre une chute sur un ring, c'est douloureux. Donc, il y a vraiment une partie... c'est prédéterminé. C'est vraiment le meilleur mot. Ou arrangé, si vous voulez. Mais à ce moment-là, c'est comme le théâtre, comme tu dis, ou comme le film.
Je dirais peut-être comme la danse, parce que je veux dire, c'est pas parce que c'est physique que c'est un sport. Je veux dire, la danse, ça peut être très, très physique, c'est très exigeant, mais c'est des gens qui sont...
C'est chorégraphié.
Oui, c'est ça.
L'exemple que tu donnes avec la danse est excellent, en fait, parce que ce qui va faire la qualité d'un match, c'est la communication entre les lutteurs. Donc, il y a une forme de danse. Il faut que toi, si on lutte ensemble, il faut que tu saches comment réagir quand je fais tel mouvement. Parce que je veux pas, comme je te dis... Si je te fais une prise et tu ne sais pas comment tomber, c'est sûr que je vais te faire mal. Donc, il faut que tu sois au courant de ce que je vais faire puis de prendre la prise de la bonne façon. Puis il y a beaucoup de timing qui est important là-dedans.
OK, Manuel, je t'arrête. Là. Nous, on est une émission foi et culture.
Oui, on a du timing à respecter.
J'aimerais qu'on parle de l'aspect rituel, hein, presque liturgique, en fait, dans une représentation ou un spectacle de lutte. C'est très codifié, tout ça. Pourquoi est-ce que, selon toi, l'être humain, on dirait, est toujours attiré par ces genres de combats chorégraphiés? Je ne peux pas m'empêcher de penser au sumo dans la culture japonaise ou encore au gladiateur dans la culture romaine. On dirait qu'on a un intérêt inné pour ça.
Ben, c'est la lutte. C'est une représentation de la lutte entre le bien et le mal. C'est ce qui fait tout l'intérêt de la chose. Comme tu dis, oui, il y a une forme de rituel dans la lutte. Les lutteurs vont approcher le ring dans une forme de procession, si on veut. Parce qu'il y a tout le temps une entrée des lutteurs avec de la musique, avec des gestes particuliers que la foule va répondre ou des paroles. Tout le monde a ce qu'on appelle un catchphrase, c'est-à-dire une phrase qui va être répétée un peu ad nauseam. Comme à la messe, il y a certains bouts de phrases qui sont répétés à chaque semaine. Les gens savent quoi répondre. C'est le même principe.
Pas ad nauseam, quand même.
Peut-être pas ad nauseam, mais les gens vont savoir quoi répondre quand même. C'est la même chose avec les lutteurs.
C'est intéressant. Dans les deux cas, on n'est pas que spectateur, on est acteur.
Non, c'est ça. Exactement. Puis surtout, au niveau de la lutte, bien, c'est le seul endroit où le public est encouragé à participer.
À déranger le spectacle.
À déranger le spectacle, en quelque sorte. Parce que c'est le seul. Si vous allez au théâtre et vous vous mettez à crier après la personne qui fait le méchant, vous allez vous faire sortir.
Non, mais à l'impro, on peut lancer des gougounes sur le monde, non?
À l'impro, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'impro, ça fonctionne. Par contre, à l'impro, il n'y aura pas d'influence à long terme sur le spectacle, ce qui peut être le cas à la lutte. C'est-à-dire qu'un méchant peut devenir bon si les gens se mettent à l'aimer. Ça peut influencer le scripteur après ça. Pas dans l'issue du combat qui se passe ce soir, par exemple. Mais à long terme, il peut avoir une influence, ce qui ne sera pas le cas en improvisation. Donc, c'est vraiment unique comme concept.
Il y a tout un langage symbolique très riche, là, je dirais, anthropologiquement parlant, dans l'univers de la lutte. Hein? Tu parlais du combat entre bien et mal. Est-ce qu'il y a d'autres aspects comme ça?
Oui, ben en fait, il y a une thèse. C'est Pierre Falardeau, le cinéaste québécois bien connu, qui a fait sa thèse en sociologie sur la lutte professionnelle. Ça vous étonne peut-être, mais c'est son sujet de mémoire de maîtrise qui est disponible. Vous pouvez aller lire ça sur Internet. C'est disponible à l'UDEM ou l'UQAM, enfin. Pierre Falardeau lutte, vous allez tomber si vous cherchez ça. Lui défend, en fait, justement, que l'aspect de rituel là, de ça, c'est ce qu'il veut démontrer, que c'est un rituel. Puis il va codifier ça comme un langage symbolique entre deux binômes. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le méchant et l'arbitre, qui socialement vont représenter le criminel, pour le méchant, si on veut, et l'autorité corrompue. J'explique. L'arbitre, souvent, à la lutte, c'est connu, il ne voit pas ce qui se passe à moitié. Il est dérangé par la foule, il est dérangé par le gérant, pendant que le méchant va tricher pour gagner le combat.
C'est un très mauvais arbitre.
C'est un très mauvais arbitre. En passant, le rôle de l'arbitre, c'est de s'assurer de la sécurité des lutteurs qui sont dans le ring. Le rôle réel. Le rôle réel de l'arbitre, c'est à ça qu'il sert. Il s'assure en tout temps de la sécurité.
Mais c'est scripté, ça aussi, qu'il soit dérangé.
Oui, évidemment. Okay. Évidemment, c'est que si je me... Il y a un combat entre deux lutteurs, il y en a un qui est un gérant. Le gérant sait exactement à quel moment monter sur le bord du ring pour que l'arbitre regarde dans mauvaise direction pendant qu'il y a quelqu'un qui donne un coup de chaise en arrière.
Mais là, ça éveille en nous notre sentiment d'injustice.
Exactement. Donc, ça c'est ce qui crée l'injustice. Puis de temps en temps, l'arbitre va voir le mauvais coup, ça vient rétablir un sentiment de justice, comme il y a une, si on veut, une force policière qui va voir un crime, qui va régler le problème, mais qu'à côté, il va s'en passer encore pendant un grand moment. Face à ça, on a un autre binôme, c'est-à-dire qu'il y a la personne qui joue le bon lutteur, ce qu'on appelle le babyface en langage de lutte, et le public. Donc, c'est-à-dire, là, on parle avec le héros et le peuple qui acclame le héros de l'autre côté. Ça, c'est vraiment la thèse de Pierre Falardeau par rapport au côté sociologique et à la fonction rituelle de la lutte dans la société comme une espèce d'exutoire et d'un catharsis.
J'aimerais, Emmanuel, si tu le permets, me tourner vers le père Édouard, profiter de sa présence comme prêtre,
comme
Édouard. Comme prêtre, quand tu entends parler de la lutte, je ne sais pas si tu as déjà assisté à un spectacle de lutte, est-ce que tu vois spontanément des parallèles avec les rituels, le rituel de la messe, qui est une forme de combat aussi entre le bien et le mal, d'une certaine manière?
Oui et non. Je ne verrais pas forcément le parallèle direct. Probablement, c'est plutôt le rituel anthropologique plus général où il y a précisément la notion de catharsis, de purification qui vient par la force de l'être humain qui vient de se produire. C'est d'où il est important que tous les acteurs, et le bon, et les méchants, et la foule, et l'arbitre, et l'autre qui joue son rôle. Parce qu'en fait, on nous encourage pour dire que nous sommes vraiment l'acteur 200% de notre vie. Même s'il y a des pouvoirs qui nous échappent, mais on est 200%. Tandis que si, malgré tout, je prends le rituel de la célébration eucharistique, de la messe, c'est un catharsis, mais autrement. C'est un catharsis de participation active, de réception du don. Et de mise en fructification de dons reçus.
Il ne s'agit pas de crier le plus fort possible à la messe.
Voilà, il ne s'agit pas. Non, quoique, je pense, dans la célébration liturgique, pour les plusieurs raisons, nous avons perdu certains aspects qui aussi donnaient ce qu'on appelle la participation active des fidèles, dont il y a plusieurs misinterprétations ou incompréhensions de ce terme. Par exemple, les fidèles sont invités pleinement à participer au chant, à la réponse qui convienne aussi aux fidèles et prendre part active, ce qui n'est pas toujours évident.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est, ça, c'est le cas dans un spectacle de lutte aussi.
Oui, vas-y, Emmanuel.
On incite fortement les gens à participer à l'action qui se passe, donc à crier son approbation ou sa désapprobation. C'est la fonction première de la lutte, là, c'est quand même de raconter une histoire. C'est-à-dire que c'est une illusion de violence, parce que c'est scripté. Bon, ça demeure quand même violent. Là, je vois rien qui me regarde avec des doutes, mais ça demeure quand même violent. Mais tout ça est une forme d'illusion. Le méchant, ce qui vient servir, c'est comme dans tout schéma narratif. C'est-à-dire que c'est un obstacle qui est à la réalisation d'une destinée du héros. Donc, que ce soit le lutteur ou Ulysse ou Hercule ou peu importe, je veux dire, c'est le même schéma narratif. Ça prend des obstacles parce que s'il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas d'histoire. Donc, le méchant gagne beaucoup plus souvent que le bon à la lutte. Le bon va finir par gagner la ceinture de championnat, mais au bout de multiples épreuves. Sinon, il n'y a pas d'histoire. C'est plate. Ça n'a aucun espèce d'intérêt d'aller se faire raconter une histoire où il ne se passe rien.
OK, mais comment est-ce que l'histoire est racontée, là? En se tapant un coup
parce que t'es jamais allé voir un spectacle
non,
de lutte.
Non, je suis comme à la fois très sceptique, mais comme de plus en plus curieuse. Là. Continue.
Il y a deux façons de raconter l'histoire. Il y a une façon, d'abord, par le combat en lui-même. C'est-à-dire, par exemple, on veut faire un petit lutteur, quelqu'un qui mesurerait, disons, 5 pieds 125 livres, qu'on va mettre contre quelqu'un qui fait 6 pieds 6, 325.
Moi contre le père Château.
On a une histoire à la David contre Goliath.
Ouais, OK.
Dans ça. Donc, par le combat même, la façon d'en aguiver...
Ça fait appel
à
des mythes que le public connaît. Il n'y a pas besoin de raconter l'histoire de David et Goliath. On la connaît, on la reconnaît dans eux.
Dans ça, parce que tu as vraiment une grande disparité entre les temps. Il y a aussi le fait que les lutteurs vont faire ce qu'on appelle une promo, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des scripts où ils vont simplement parler au micro pour faire avancer l'histoire, la trame narrative.
Il y a des liens d'un spectacle à l'autre dans une saison. Donc, il faut que tu t'abonnes, en fait.
Tu ne peux pas parler de saison parce que la lutte, ça, c'est encore là, comme différence au sport, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause pendant l'été. C'est 52 semaines par année.
Avant qu'on se laisse, là, Emmanuel, j'aimerais revenir sur une idée que le Père Chateau a dit, la catharsis, la purification. Les gens qui vont voir de la lutte, ils se permettent des choses qu'on ne se permet pas dans la société, hein, de crier fort, de dire des mots qu'on ne devrait pas dire en public, mais en même temps, est-ce que ça ne les aide pas après dans la société, justement, à être non-violents? Ou à l'inverse, diraient certains, ça attise en eux des comportements violents?
Moi, je pense que c'est une soupape. Tu vas là pour sortir, parce que c'est permis, en fait. Il y a une convention qui fait que c'est permis à cet endroit-là de crier n'importe quoi. Puis le méchant, il est là pour ça, se faire crier n'importe quoi. Puis il t'encourage à le faire. Parce que si, la pire chose là, qui peut arriver à quelqu'un qui joue un méchant dans un spectacle de lutte, c'est retourner en arrière dans les coulisses puis qu'il n'y a pas eu de réaction dans la foule. Ça veut dire que t'es pourri. Tu veux te faire crier après si tu joues un méchant, au même titre que tu veux te faire acclamer si tu joues un bon. Ça veut dire que tu ne l'as pas si les gens ne crient pas pour toi. Donc, pour moi, c'est vraiment une soupape sociale. Puis la lutte, c'est un sport de classe populaire à la base.
Là, c'est devenu un sport.
Oui, c'est un sport.
Un sport.
Mais de classe populaire à l'origine. C'est apparu au 19e siècle dans les fêtes foraines. Mm. Les racines, si on veut, de la lutte professionnelle contemporaine.
Super intéressant. On pourra aller sur leverbe.com. On a deux ou trois textes sur les liens entre lutte, culture et même foi, ouais. D'une certaine manière, pour en savoir un peu plus. Emmanuel Lamontagne, doctorant en histoire de l'art et passionné de lutte québécoise. Merci beaucoup.
Merci.
C'est toujours Simon Lessard à la barre d'On n'est pas du monde. Christ est ressuscité, Christ est vraiment ressuscité. Les chrétiens scandent ce slogan durant plus de 50 jours après Pâques. Mais que signifie exactement ressuscité? Le père Édouard Chateau est avec nous pour nous éclairer un peu sur ce mystère si lumineux qu'il peut parfois éblouir nos faibles intelligences. Bonjour, père Édouard.
Bonjour. Hein?
Alors, quand on parle de la résurrection, là, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Est-ce que c'est juste un synonyme de réanimation, réincarnation?
C'est étonnant, mais le terme lui-même, on pourrait dire que la résurrection, c'est et le processus et les résultats du combat pour la vie.
Ah, très intéressant.
Et donc, la question, c'est assez, disons, précis. Et en même temps, très large. Donc, prétendre donner la définition et dire « la résurrection, c'est ceci ou c'est cela », ce sera un peu fou et un peu prétentieux. Par contre, il y a plusieurs idées à propos de la résurrection. Mm-hmm. Et donc, le mot en tant que tel, elle veut dire une chose toute simple, se tenir debout, d'être redressé, d'être dans la posture de droiture.
Je vois tout le monde qui est en train de se redresser le dos
voilà,
en ce moment.
Parce que, en fait, être pécheur dans le langage hébraïque, c'est être tordu, avoir des torsions, et c'est d'ailleurs pour cela que, parce que tout le monde est tordu à la différente manière, quand on se croise, on se fait du mal. Et donc, quand on va se redresser, toutes et tous, on va vivre en communion sans se faire du mal. Mais il y a aussi cet aspect de se tenir debout, non pas seulement dans la posture physique, mais dans la posture spirituelle, d'être pleinement vivant. Mm-hmm. Et c'est à partir de cela qu'il y a vraiment les choses qui divaguent. Peut-être plus facile dire de temps en temps ce que la résurrection n'est pas.
Alors, qu'est-ce que la résurrection n'est pas, Edouard Chateau? Est-ce que c'est la même chose que la réincarnation?
Non, parce que, par exemple, nos contemporains ont beaucoup s'intéressent à la réincarnation. Parce que quel est le concept qui est derrière? C'est que si j'ai raté un peu ma vie dans cette version-là, mais j'ai encore 3, 4, 5 versions...
C'est comme un jeu vidéo, un peu.
C'est comme un jeu vidéo, ou comme le dessin animé dont j'ai parlé dans ce même studio... Le chapeauté, donc, mais le problème, même là, le nombre de vies est limité, hein, c'est pas à l'infini. Et je ne sais pas pourquoi, dans la mentalité occidentale, on s'est créé une idée que quand on se réincarne, on va dans la meilleure version de nous-mêmes.
Alors que ce n'est pas nécessairement le cas dans
l'hindouisme. Pas du tout. C'est dans les traditions orientales, c'est plutôt le contraire. C'est quand on va s'accomplir pleinement, on ne se réincarne plus. On va vers le bonheur éternel, un peu la disparition de l'être dans le grand tout divin. Par contre, la réincarnation, c'est le châtiment divin pour une vie non réussie.
Donc c'est
et
vraiment...
on retombe un peu plus bas et on doit prouver qu'on est digne de vie, on doit remonter. Donc c'est le tout oriental. Il ne veut pas se réincarner. Il veut s'échapper au cercle de réincarnation infinie. Parce qu'on commence comme un être humain, mais on peut tomber dans un cheval, dans une feuille, dans un ver. Imaginez-vous, ma vie future, c'est être un ver. C'est sympa, même si on devient un papillon, mais tout de même. Donc la réincarnation, c'est un concept qui est très, très popularisé, mais en fait popularisé sous notre propre sauce. Et la vie n'est pas prise très souvent au sérieux dans ce cas.
Ben, un peu comme dans un jeu vidéo, on a plusieurs vies, mais la réincarnation serait le signe d'un échec.
Oui.
On n'a pas réussi à passer le tableau de la vie.
Tout à fait.
Alors que la résurrection, c'est le signe d'une victoire, d'un succès.
Tout à fait. C'est un succès. Et en plus, il y a aussi une autre chose, c'est que dans le cas de la réincarnation, on sait que c'est la vie, que si on n'est pas réussi, il y a quelque chose qu'on a manqué. C'est-à-dire quelque chose n'était pas sérieux, quelque chose on n'a pas prêté assez d'attention. Tandis que la résurrection est vraiment dire « ma vie ici-bas, c'est la vie qui compte, donc je vais essayer de faire mon mieux », mais la résurrection dit une autre chose. La vie est offerte et donc c'est le don de Dieu qui vient pour chacun d'entre nous.
Et à quelle vie on ressuscite? Est-ce que c'est à la même vie terrestre?
Je ne pense pas parce que c'est là que l'évangile de Jean, dans l'épisode de résurrection de Lazare, le mot d'ailleurs qui est utilisé traditionnellement est la résurrection, mais quand les gens expliquent ce passage, ils disent toujours un peu le retour à la vie, c'est que Lazare sort de son tombeau, mais il revient à sa vie comme auparavant, avec une petite nuance. Je ne sais pas est-ce que quelqu'un qui a traversé la mort, ce qu'aujourd'hui nous montrent certains récits des gens qui ont traversé la mort imminente,
on revient transformé quand même.
On ne revient pas pareil. Mm-hmm. On ne revient pas pareil. Sauf que l'Évangile nous précise, on veut tuer Lazare, donc Lazare va mourir à nouveau.
Il demeurait mortel, capable de maladie,
voilà,
de souffrance.
Tout à fait. Il demeure même s'il est transformé. Donc ça, c'est la première chose.
Mais il demeure lui-même, contrairement à la réincarnation.
Tout à fait.
Où il serait quelqu'un d'autre totalement.
Tout à fait. Il demeure précisément lui-même, Lazare, ami de Jésus, qui entend sa voix.
C'est intéressant pour une époque qui valorise le sujet, le mystère de la résurrection, puisqu'il garde notre individualité.
Tout
on pourrait
à fait.
Dire correspond mieux peut-être à notre sensibilité moderne.
Tout à fait.
Alors que la réincarnation, comme tu le dis bien, Emmanuel, ben, nous fait perdre notre personnalité.
Tout à fait. Tout à fait.
Puis il n'y a pas aussi... Tu as mentionné la réanimation, là. Il n'y a pas aussi le cas du fils du centurion romain
tout à
qui
fait.
Le est cas moins fils mort, de mettons, que Lazare?
Non, il y a le cas du fils de centurion romain. Il y a le cas du fils de veuve de Naïn, donc, qui est mentionné dans les évangiles. Il y a le cas du fils de fameuse veuve de Sarepta dans l'Ancien Testament que le prophète Élie fait retourner à la vie. Il y a Saint-Pierre qui fait revenir à la vie Talita dans la ville de Jaffa, d'où d'ailleurs il y a une grande église où cet événement s'est raconté dans les Actes des Apôtres. Donc, les retours à la vie, c'est évident, mais ce n'est pas ça la résurrection. Ce n'est pas le retour, juste le retour à la vie tel qu'on l'a connu. Ce n'est pas la réincarnation. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est pour cela que c'est difficile précisément à dire ce que la résurrection nous dit, et c'est la résurrection de Jésus-Christ, évidemment, c'est qu'on est reconnaissable, mais on est méconnaissable. On garde notre personnalité, mais on ne peut plus nous saisir de la même manière comme avant. Par exemple, Jésus se retrouve au milieu d'une pièce où les portes sont fermées. Certains disent qu'il a traversé les murs. Je ne sais pas est-ce qu'il a traversé le mur, le texte ne le dit pas, et ça sera allé trop vite. Mais on dit qu'il est là, au milieu d'eux. Mm-hmm. Quelle est cette manière de se rendre présent au milieu d'eux? Cette manière ressuscitée, il est tout autre.
Voilà. Je pense à un fœtus qui devient bébé, qui devient adulte, c'est la même personne, mais il y a une transformation de l'être, tout de même dans cette croissance.
Voilà, et c'est là que peut-être on peut dire que la résurrection, dans le cas de Jésus-Christ, nous fait comprendre quelque chose à propos de destin ou de l'appel de tout être humain, mais qu'on ne peut pas s'approprier de 100%. On ne peut qu'accueillir ce don.
Père Édouard Chatov, j'aimerais qu'on aborde ensemble certains symboles ou signes de la résurrection dans la culture populaire. Donc, à Pâques, là, on voit comme toute une petite fermette souvent se apparaître en décoration, des poules, des œufs, des lapins, des lièvres. Pourquoi est-ce que ce seraient ces animaux-là qui représenteraient ce mystère de la résurrection? Moi, je ne vois pas le lien là, immédiatement.
Parce que ce sont les symboles qui existent déjà dans l'humanité. Ils existent avant Jésus-Christ. Sauf que quand les chrétiens vont dire le mystère de la résurrection, ils doivent aborder un langage qui est compréhensible à tout le monde. Donc, ils vont dire la poule. Quand on regarde la poule, elle prend soin de ses petits et elle pond des œufs. Elle pond des œufs et c'est comme Dieu qui donne la vie, qui prend soin de ses petits. En plus, il y a cette phrase qui, dans l'Ancien Testament, que Dieu dit « Moi, j'ai voulu vous rassembler », et Jésus cite ça dans l'Évangile, « Moi, j'ai voulu rassembler comme la poule qui rassemble ses poussins et vous, vous n'avez pas écouté. » Voilà pourquoi, précisément ici, à la résurrection, Dieu enfin rassemble ses poussins, ses enfants, et il les réussit. Ça, c'est la poule. Les œufs, quand on regarde un œuf, c'est ce qu'on appelle l'éternité de Dieu. C'est un peu ovale, rond. Et c'est de l'œuf qui apparaît la poule. Donc, le don de la vie, c'est comme l'univers qui éclate.
Attends, est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui vient en premier?
On verra. Quand on verra Dieu, on le demandera, là. Mais la question, c'est que l'œuf, il éclate. Donc, la résurrection, c'est un éclatement. Mm. Et peut-être, pour se tenir droit dans la posture spirituelle ou même physique, de temps en temps, il faut adopter les nouvelles habitudes. Il faut sortir du cadre un peu préétabli. Donc, l'œuf, c'est un peu ça. Et c'est pour cela qu'on représente aussi ce monde divin un peu arrondi. D'ailleurs, les œufs, les poules et les lapins, ou le lièvre plus précisément, parce que ce n'est pas exactement le lapin, hein, c'est le lapin du forêt qui a été pris en symbole. C'est devenu un peu le lapin domestiqué. Et très souvent, c'est enveloppé dans les feuilles dorées parce que l'or, c'est la peinture ou la couleur créée pas par la main humaine. C'est un minéral qui existe déjà, donc depuis des siècles, et dans la chrétienté, et dans la culture chrétienne et ailleurs, il représente l'éternité de divin. Et le lièvre, donc c'est comme Jésus surgit inattendu du tombeau et on ne le retrouve pas, les lièvres surgissent de la terre et sautent et on ne peut pas les saisir.
Je pensais que c'est parce qu'ils faisaient beaucoup d'enfants puis que c'était un symbole de fertilité et de vie.
Non. Dans la foi chrétienne, le symbole de fertilité et de la vie, très souvent, on ne le pense pas. C'est lors de la vigile pascale, le cierge pascal qui est plongé dans les fonts baptismaux. Il y a une très belle prière qui accompagne cela, que comme ces fonds baptismaux engendrent les baptisés, donc c'est le symbole de fertilité.
Père Édouard Chatov, je connais un prêtre qui dit souvent à la blague « on nous menace de résurrection des corps ». Pourquoi toute cette emphase chrétienne sur le corps humain? Est-ce que ce n'est pas plutôt l'âme qu'il faudrait sauver puis nous libérer enfin de ce corps qui est fatigué, qui est souffrant, qui est malade, qui nous limite tant?
Oui, mais c'est un peu douloureux de le dire, ou c'est peut-être heureux de le dire en parlant de la résurrection, c'est que les chrétiens, la foi chrétienne, n'a jamais pensé l'être humain en termes corps-l'âme. C'est une erreur fondamentale que beaucoup d'entre nous tiennent. La foi chrétienne, et par la théologie de saint Paul et ailleurs, et ça revient heureusement aujourd'hui, c'est l'être humain est constitué de trois éléments, corps, âme et l'esprit. Et donc, tous les trois éléments sont importants parce que Dieu crée l'être humain dans cette intégrité et l'être humain est appelé à la bonté, au bonheur, à la beauté. Mais suite à certains événements que, à nouveau, l'expérience croyante appelle le péché, le corps est devenu mortel, le corps est devenu souffrant. Et donc, la vraie question, c'est de ne pas se débarrasser du corps, mais grâce à la présence de l'esprit, régénérer et renouveler cette unité de corps-l'âme dans l'esprit qui fait que l'être humain est pleinement l'être humain.
Les Grecs, je crois, parlaient du binôme sarx-pneuma, chair et esprit.
d'une certaine manière, le souffle de Dieu en nous.
Oui, tout à fait. Mais tout à fait, sauf que ce qu'on appelle l'âme malgré tout, et c'est le psyché en grec, et donc l'être humain, si on opère des termes grecs, ça va être le sarx, psyché et pneuma.
Ah, les trois ensemble. Évidemment.
Les trois ensemble. D'où d'ailleurs la corporéité liée à la psychologie à la spiritualité, et les spiritualités et psychologie définissent notre condition physique.
En terminant, Père Édouard, il nous reste une minute environ, j'ai une grande question pour toi. J'ai l'impression que dans notre culture occidentale, québécoise aussi, la fête de Noël, le mystère de l'incarnation est resté plus présent, plus populaire, alors que le mystère de Pâques, la fête de Pâques, à part prendre du chocolat, est éclipsé. Pourquoi? Est-ce que, selon toi, le mystère de la résurrection... Est-ce que c'est un mystère qui ferait moins écho à notre culture que celui de l'incarnation?
Oh, si j'aurais pu répondre à ta question, je ferais une vraie percée dans la pensée mondiale. Parce que tous les spécialistes de la pensée un peu croyante chrétienne se posent cette question dans plusieurs livres, dans plusieurs ouvrages. On remarque qu'en Occident surtout, on va prêter l'attention à la nativité. Et en Orient chrétien, on prête beaucoup plus d'attention à Pâques.
Très intéressant, je ne savais
donc,
pas ça.
Donc, la Pâques, c'est la fête principale de l'année. Là, la nativité, ça joue son rôle, mais la nativité n'a aucun intérêt s'il n'y a pas de fête salvatrice de l'événement de Pâques. Parce que l'être humain est sauvé pendant la fête de Pâques. Et ça commence à l'incarnation, la nativité, mais ça aboutit et s'accomplit dans la fête de Pâques. Et c'est peut-être là qu'il y a aussi les accents qui sont mis un peu de temps en temps bizarrement dans la culture un peu de l'Orient chrétien sur cette transcendance sacrée de Dieu et au côté occidental, plus sur l'humanité, l'immanence. Mais peut-être il faut combiner les deux, et voilà peut-être le défi actuellement de les faire un peu entrer en communion plus profonde et les valoriser.
Merci beaucoup, Père Édouard Chateauve, prêtre assomptionniste et directeur du Centre Foi et Culture de Montmartre à Québec. Merci et bon temps, Pascal.
Bon temps, Pascal, aussi à tout le monde.
Le passage de la mort à la vie demeure le plus grand mystère de l'existence humaine. Sarah-Christine Bourriane a récemment accompagné sa mère dans ce moment ultime de réconciliation et de communion. Elle est avec nous pour en témoigner spécialement des lumières et des grâces reçues dans ce temps ouvert sur l'éternité. Bonjour Sarah-Christine.
Allô.
Alors merci beaucoup de venir témoigner aujourd'hui. C'est pas facile parce que c'est un souvenir quand même frais ta mémoire.
Oui, c'est intéressant.
Donc ta maman est décédée au mois de janvier dernier.
Oui.
Dans quelles circonstances d'abord est-ce que ça s'est passé? Et aussi peut-être juste pour nous mettre rapidement en contexte, quelle était ta relation avec ta mère? Étiez-vous très très proche?
J'étais pas très très proche justement, c'est pour ça que ça a été un moment de grâce vers la fin comme ça, parce que durant toute ma vie j'ai comme voulu être proche d'elle, mais elle, il y a comme eu une brisure au début de son mariage, quand je suis arrivée dans le décor, bon ça change une vie avoir un enfant, mais puis moi c'est ce rapport-là que j'ai eu avec elle, puis d'ailleurs après sa mort j'ai comme appris à la découvrir sous un autre jour, puis je regrettais de pas avoir connu cette version-là d'elle, si je peux dire. Donc dès qu'elle m'appelait... Elle m'appelait vraiment souvent, puis j'étais comme toujours bête avec elle au téléphone, puis j'arrêtais pas de me dire « Ah, il faudrait que je me rapproche de ma mère, il faudrait que je me rapproche de ma mère. » Et là, je vois que ça se passe moins bien pour sa santé. Ça faisait 40 ans qu'elle avait pas consulté de médecin, puis il y avait aucune ressource à domicile pour elle. Donc moi, j'assistais passive au déclin de sa santé, puis je voyais plusieurs signes qui annonçaient ce qui s'en venait. Donc, à un moment donné, elle n'était plus capable de se relever de sa chaise. Puis, à un moment donné, ben, elle était juste complètement couchée par terre durant 12 heures. Je l'ai comme su parce que ma grand-mère m'a appelée parce qu'elle était comme plus capable de lui parler au téléphone. Donc, quand on est arrivé sur les lieux, elle avait le visage tout enflé, elle respirait mal. Puis, les ambulanciers ont dû appeler les policiers pour l'amener à l'hôpital parce qu'ils n'avaient pas le droit de la laisser par terre puis elle n'était pas capable de se relever. Donc, c'est un petit peu le contexte qui a précipité un petit peu... le fait que sa fin de vie, là, mais elle était déjà
c'est
en fin
comme...
de vie.
OK. Ouais. Et puis, rapidement, à l'hôpital, la situation, je pense, s'est aggravée. Comment est-ce que tu as réagi? J'imagine qu'on t'a dit assez rapidement qu'elle était probablement dans ses derniers temps.
Bien, les médecins, ils essaient de sauver. Donc, ils essayaient de sauver les signes vitaux de ma mère. Ils t'annoncent pas qu'elle va mourir. Je comprenais par le petit écran bleu à gauche de ma mère que son cœur battait à 170. Donc, je voyais le cardiologue dans la pièce. Quand tous les spécialistes sont dans la pièce, c'est souvent pas bon signe. C'était aux soins intensifs, donc la pièce est toute petite, pas de lumière. Puis je vois ma mère dans un état qui entre dans un état de confusion. Moi, ça prend du temps à comprendre. Les événements se bousculent. Toi, t'es là, t'essaies de comprendre ce qui se passe. T'as pas beaucoup d'informations. Puis ma mère, je vois qu'elle commence à me dire des phrases comme « Est-ce que tu voudrais me donner une louche de peinture? » Des choses comme ça. Donc moi, je commence à quand même angoisser de plus reconnaître tout à fait ma mère. Puis je la vois dans un récit de déni, de dire « Ah, tout va bien! » elle la voyait pas, on dirait, le mal qui lui arrivait. Puis moi, à un moment donné, j'ai comme changé d'attitude parce que je me disais, ben voyons, elle comprend pas que ça va mal. C'est quoi son problème? T'sais, moi, c'était toujours l'attitude que j'avais envers elle. Puis quand je vois que c'est ça, ses reins fonctionnent plus, que son cœur fonctionne plus, à un moment donné, j'allume qu'on va probablement m'annoncer imminemment que c'est la fin. Puis là, elle me disait qu'elle avait froid, elle me répétait ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, les petites couvertes d'hôpital super minces avec des petites rayures bleues, c'est pas, c'est pas très chaud. Donc, je suis allée au centre d'achat lui acheter une couverture épaisse. Puis pour moi, ça a été... C'est très banal, là, aller dans un centre d'achat, tout le monde y va. Je suis allée je sais pas combien de fois, mais là, ça m'apparaissait comme je suis dans le palais de la surconsommation. Puis là, moi, mon but, c'est d'aller acheter une couverture pour ma mère qui est dans ses derniers jours sur Terre. C'est comme si le contraste entre ce que je vivais, l'ouverture de mon cœur qui commençait à se faire, que j'avais tellement espéré depuis longtemps face au trafic des humains qui continuent à acheter, à consommer en vain, ça me frappait. Puis quand je suis arrivée, je lui ai mis cette couverture-là. C'est comme si je disais, ben maman, maintenant, j'accueille ta vulnérabilité. J'accepte que je vais pas te changer. Que même si en ce moment tu comprends pas ce qui se passe, t'es encore dans le déni, je veux être là. Puis là, il a commencé à avoir un déclic qui s'est fait, mais tu sais, durant toutes ces jours-là aux soins intensifs, tu sais comme pas quoi faire, là. T'es comme. C'est ça, c'était pas facile.
Sarah-Christine Bourriane, j'imagine que quand la médecine ne peut plus rien faire, qu'on ne peut plus sauver le corps, on entre évidemment dans l'ultime étape de la vie sur Terre, mais j'imagine que et ta mère et toi, ça a dû changer quelque chose, le fait qu'il n'y ait plus cette perspective, disons, de salut corporel.
Oui. Bien là, c'est ça que... Là, on est aux soins intensifs. C'est sûr que quand ils t'annoncent là, que la mort, il reste quelques heures à vivre, quelques jours, là, tu vois que l'équipe médicale arrête tous les soins là, pour sauver son corps. Puis que là, tout d'un coup, c'est les questions de mystère... Tout de suite, on la débranche. Ben, en tout cas, on la débranche. On débranche toutes les fils qui la nourrissaient, qui lui donnaient des médicaments, tout ça. Puis, 15 minutes après, dans la chambre, t'as comme l'intervenant en soins spirituels. Puis là, on entre dans une autre étape de soins, si je peux dire.
Et là, c'est vraiment l'accompagnement de la fin de vie qui commence à se vivre, les soins palliatifs.
Oui, exactement. Là, c'est la possibilité d'avoir les derniers sacrements. Tu sais, tout déboule vite. Là, tu sais pas si dans une heure, la personne sera plus là. Tu sais pas combien de temps ça peut durer. Puis on est comme dans une autre temporalité. Là. Elle a été transférée dans l'unité de soins palliatifs. Une grande chambre avec des fenêtres. Donc, j'étais quand même très heureuse de changer de lieu. Mais oui, là, on entre vraiment dans une autre logique. C'est d'être là avec quelqu'un qu'on essaie plus de sauver, mais qu'on accompagne vers une autre forme de salut, si je peux dire. Là.
Ariane?
Je peux pas m'empêcher de me demander, est-ce qu'ils vous ont proposé l'aide médicale à mourir?
J'ai eu peur qu'il propose parce qu'à un moment donné, ma mère a parlé plus tard, là, parce que tout l'épisode que je raconte, finalement, ça n'a pas duré quelques heures, ça a duré 8 jours. Mais à un moment donné, la question se pose, même dans l'entourage, ils disent, ben là, combien de temps qu'elle va rester comme ça? Ça n'a pas de bon sens. Puis elle-même a dit, dans un genre de 5 minutes de lucidité, ah, je suis prête à partir, c'est quand la piqûre? T'sais, les gens ont comme ça en tête, puis ça tombait que l'infirmier avait entendu. Puis là, il me dit, ouais, lundi, quand le médecin va revenir, va falloir parler d'un plan d'intervention pour la suite. Fait que là, j'ai commencé à avoir peur, mais dans la situation de ma mère, elle était quand même inapte à le décider parce qu'il y avait de l'encéphalopathie.
Donc, c'est pas venu sur le sujet, mais j'imagine que ça, s'il y en avait eu pour plusieurs mois, là, peut-être que...
Donc, il n'y a pas dû d'euthanasie, mais tu as été à son chevet pendant tous ces derniers jours, ces dernières heures, en tout cas autant que possible. J'imagine que vous avez vécu des moments intenses.
Oui, donc moi... Dès qu'elle est arrivée aux soins palliatifs, je m'attendais à ce qu'elle meure. Même l'infirmier m'a dit, à mon avis, vu son état de santé, elle ne durera pas durant la nuit. Donc là, t'es là, t'attends, t'oses à peine te lever pour aller chercher un café. Puis je vois ses doigts qui devenaient bleus, ses lèvres. Et puis là, la seule chose que je peux faire comme chrétienne, c'est de prier. J'ai rien d'autre à faire que de prier. Chapelet de la miséricorde, j'enchaînais. Il y a toutes sortes de litanies pour ça aussi. Là. J'ai découvert tous les offices des défunts. Donc, ça devenait très intense. Puis je voyais qu'il y avait un combat. Là. Dans ses yeux, là, la peur était palpable. Dès qu'elle fermait ses yeux, elle les rouvrait. Et puis là, vers 2h du matin, ben, l'infirmier me dit « Vous devriez peut-être aller vous reposer. » Parce que là, je lui pose des questions. « Pouvez-vous me dire c'est quand? » On ne peut pas te répondre. « Bon, elle va mourir. » Puis même, je me surprenais à faire des prédictions. Là. Ça va peut-être arriver à 10h ce soir.
C'est intéressant. C'est un mystère qu'on ne peut pas parfaitement contrôler exactement. Et prévoir le moment de la mort.
Ben oui, exactement. Puis finalement, il me dit « ben, certaines personnes, moi, je vois quand il y a des regains d'énergie comme ça, madame, allez vous reposer. » Des fois, des personnes attendent quelques... une personne à voir, quelque chose à régler. Fait que moi, cette phrase-là de l'infirmier a vraiment fait son chemin. Et le lendemain, quand je reviens, je vois que ma mère est plus lucide parce qu'elle n'avait plus l'effet des médicaments. Puis je me dis, quelque chose à régler. Ben, avec moi. Moi, j'ai quelque chose à régler avec elle. Et tout de suite, j'appelle un prêtre pour me confesser. Il a d'ailleurs prié sur ma mère. Puis après ça, il y a une paix là, qui est venue dans mon cœur. Je savais que durant ces instants-là de vie que... Dieu donnait en bonus à ma mère, ben que moi, j'avais un chemin à faire avec elle. Puis tout ce que j'avais toujours espéré pour notre relation, c'est comme si d'une manière accélérée, ça s'est fait durant ces instants-là qui sont donnés. C'est tellement intense, là. C'est comme si tu peux pas être ailleurs quand tu vis ça. Puis là, quand je suis entrée là-dedans, il y a des bénévoles que je connaissais qui sont venus, qui avaient de l'expérience avec les soins palliatifs, qui m'ont un petit peu appris comment gérer cette période-là de soins palliatifs. T'sais, je voyais, il y avait une femme, elle lui flattait les cheveux, elle l'aidait à prendre des respirations. Puis même, des fois, ça me faisait penser à un accouchement. Là, parce que la personne respire.
C'est l'inversion des rôles.
Ouais, oui, exactement. C'est ma mère qui m'avait donné la vie. Même à un moment donné, je lui donnais à boire. Je me disais, mais c'est elle qui m'a donné à boire quand j'étais toute petite. Mais c'est ça, j'essayais, à un moment donné, je lui flattais les cheveux, je lui caressais les mains, puis c'est ce que je trouvais beau aussi, de voir la dignité de cette personne-là qui est plus fonctionnelle, qui est comme en train de partir, puis de dire, puis elle, la personne me disait, est-ce qu'elle a été changée? T'sais, elle veillait à ce qu'elle garde.
Il y a une dignité qui demeure de la personne humaine, même si elle est dépendante, souffrante, fragile.
Oui. De dire ben, pourquoi qu'elle aurait besoin d'être changée, de toute façon, elle va mourir. On pourrait se dire ça, mais non, on tenait à ce qu'elle soit bien peignée, bien présentée. Puis elle, même si elle n'était pas complètement consciente de ce qui se passait, je sentais qu'elle savait là, que c'est vers ça qu'on s'en allait, mais elle ne pouvait pas avoir de dialogue nécessairement. On ne pouvait pas faire de discussion ensemble.
C'est-à-dire le corps, le dialogue, ça communique autrement.
Ça communique autrement. Exactement. Puis elle était réceptive. Puis il y avait de l'anxiété qui était là. Puis le but des soins palliatifs aussi, c'est de calmer cette anxiété, d'avoir le bon dosage de morphine. Puis quand tu accompagnes quelqu'un, tu es comme les yeux sur le terrain pour l'infirmier que je ne sais pas combien de chambres où aller. Donc toi, tu dis, hey, ben là, je commence à voir qu'il y a plus d'agitation. Est-ce que tu pourrais comme ajuster la dose? Est-ce qu'il y aurait peut-être un calmant à donner? Mais ça, j'ai comme tout appris ça, en fait, en étant avec des personnes qui ont pu m'aider à comprendre ce qui se passait à ce moment-là.
Sarah Christine, tu m'as partagé hors honte que tu voyais pratiquement Jésus, d'une certaine manière, dans ta mère.
Oui.
Et que la chambre d'hôpital est devenue presque un sanctuaire, d'une certaine manière.
Oui, exactement. Donc, j'arrivais, même je me surprenais à faire un signe de croix quand j'entrais dans la chambre. Même à un moment donné, je me disais, il faudrait peut-être que j'aille prier à la chapelle d'adoration. Puis je me disais, ben non, c'est ici la chapelle, c'est ici l'adoration. C'est comme si je voyais le Christ à mes pieds, puis ça m'a frappée parce que c'était
Christ
Matthieu.
Souffrant, agonisant.
Oui, puis c'était Matthieu 25, là, l'évangile qui était lu dans le dimanche d'après la mort de ma mère. Puis j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nue, vous m'avez vêtue. C'est exactement ça que je faisais avec ma mère. Puis c'est comme si. Dans la chambre, je suis au portique de l'éternité. Là. Je suis au parquet de l'éternité. La mort c'est le mystère ultime de la vie. C'est vers ça que notre vie aboutit. Puis c'est comme si je regardais dans le temps, mais j'étais dans une autre temporalité. Puis heureusement que j'ai eu un bon employeur pour me permettre de vivre ce... de vivre intensément ces moments-là, mais c'est comme si tout me paraissait vain, puis je vois pas où j'aurais pu être. T'sais, c'était comme là que je devais être. Et accompagner ma mère, c'est le passage de sa vie. Il fallait que je sois à ses côtés pour prier.
Est-ce que tu étais seule ou d'autres personnes t'ont aidé?
Oui, il y a eu d'autres personnes. Puis je me disais que ça serait bien qu'il y ait des apostolats pour aider justement des personnes qui veillent au chevet d'un mort. Parce que
une sorte de doula de la mort plutôt que de la naissance.
Il y a eu une vierge consacrée qui avait, 2 semaines plus tôt, aidé son amie à accoucher. Puis là, dès que je lui ai dit que ma mère était à l'hôpital, elle a dit « je vais venir ». Puis elle est restée là, les 3 derniers jours. Je pense qu'elle était avec moi pendant 10 heures de temps. On pouvait pas allumer des lampions. Là. On nous l'a fait remarquer, mais on s'est mis à chanter des chants en hébreu. Elle avait apporté des huiles de Terre Sainte. On bénissait ma mère. Je lui ai même fait symboliquement ce que j'avais reçu à mon onction en catéchuména avant de me faire baptiser. On nous bénit le front, les lèvres, les oreilles. Donc, je faisais ça à ma mère. Et c'était, on chantait des chants, c'est ça, un chant hébreu qui disait ton nom est inscrit au livre de la vie. Donc c'était très, très, très priant. Puis je pense que ça a marqué aussi tout le personnel soignant qui voyait quelle importance, quelle attention on accordait à ce passage-là qui est en train de se vivre.
Il nous reste très peu de temps, Sarah. J'aimerais quand même, lorsque le moment ultime de la mort est venu, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé dans la douleur, dans l'angoisse ou dans une forme de paix, de lumière?
Mais j'ai vu ma mère devenir plus sereine au fil des jours, sourire, puis plus on approche de la mort, plus la personne, bon, à un moment donné, perd l'état de conscience. Le dernier sens qui reste, c'est Louis. Donc moi, je l'ai vu devenir sereine, même faire des blagues vers la fin. On a eu des moments de fou rire. Donc elle est passée de l'angoisse à une forme de sérénité. J'étais pas là au moment où elle est décédée, en fait. Je retournais quand même coucher chez moi, mais pas longtemps, des nuits courtes. Puis quand on m'a appelée, ben moi, je suis arrivée là dans un esprit de prière parce que c'était comme ça qu'on avait vécu les huit derniers jours avec elle. Puis j'ai même appelé des amis. J'ai croisé un pédiatre croyant. Dès que je suis entrée dans l'hôpital, je le vois. Puis on s'est mis à entourer... À se tenir les mains pour faire un Notre Père avec les mains de ma mère. Et on a fait toutes sortes de prières encore pour terminer, là, terminer en tout cas, c'est pour l'accompagner.
Traverser ce moment.
Exactement. Donc on a pris tout le temps qu'on avait. On a 3 heures avant qu'il l'amène à la morgue. Donc j'ai vraiment utilisé ces moments-là pour veiller avec elle.
Le temps est malheureusement écoulé, mais si tu avais à résumer en un ou quelques mots toute cette expérience d'accompagnement à la vie, d'une certaine manière, si on croit à la vie éternelle, comment est-ce que tu résumerais ça?
Bien, l'accueil de la vulnérabilité de ma mère, qui est devenu un moment sacré, les derniers moments sur Terre, c'est vraiment pas rien, c'est vers ça que tout le monde se dirige. Puis d'avoir assisté à ça, j'ai vu à quel point c'est grandiose ce passage-là, puis qu'on vit notre vie pour ça, en fait. Puis que si on a la chance de pouvoir veiller au chevet de quelqu'un, c'est une grâce. Il y a des grâces incroyables qui sont données pour ce moment-là très précis d'une vie qui se clôt, mais qui naît à une autre vie.
Sarah-Christine Bourriane, journaliste pour le magazine Le Verbe. On peut lire ton témoignage sur leverbe.com. Merci infiniment pour ton partage si authentique et touchant.
Merci de votre écoute.
Vous aimeriez réécouter ou partager une chronique dont n'est pas du monde? Abonnez-vous dès maintenant aux pages YouTube et Facebook du Verbe Média pour retrouver toutes nos émissions et ne pas manquer celle à venir.
C'est l'heure de notre tour de table culturelle. Emmanuel Lamontagne.
Oui, moi, je vous propose une chaîne YouTube du groupe The Petersons, qui est un groupe américain qui fait du bluegrass, country et gospel. Qui est un groupe familial. C'est une mère avec ses 3 filles et un fils et un ami de la famille. Fort, fort intéressant. Ils ont commencé leur carrière en chantant dans des églises. Maintenant, c'est une sensation YouTube aux États-Unis comme groupe.
De Peterson, ça s'écrit P-E-T-E-R-S-E-N-S.
Oui, et non son. Peterson et non son.
Merci beaucoup, Emmanuel Lamontagne. Par Édouard Chateauve, quelque chose à nous suggérer?
Ah oui, évidemment, mais un peu peut-être inhabituel pour les auditeurs et les auditrices du Verbe. Tout le monde sait, plusieurs voix, que pendant le temps de Pâques, on écoute les oratorios de Bach. Passion selon saint Matthieu, passion selon saint Jean. Mais peut-être au temps de Pâques, c'est mieux écouter les passions sur la fête de résurrection et de l'ascension. En plus, c'est une musique enchantante, donc ça peut même redynamiser les marches ou pour certains, peut-être même le jogging le matin.
On ira voir ça. Il y a plusieurs versions sur YouTube, les oratorios de Pâques et de l'Ascension de Bach.
Oui.
Très intéressant. Merci, Père Édouard. Sarah-Christine Bourriane.
Johnny, un film polonais qui parle de soins palliatifs. Ça, ça
ah oui.
Ma chronique. C'est basé sur des faits vécus. Un prêtre qui a fondé une maison de soins palliatifs puis s'est mis en scène avec l'histoire d'un ex-criminel qui doit faire des heures communautaires dans ce centre-là et qui est complètement transformé par la rencontre de ce prêtre-là et d'accompagner les mourants, ça change vraiment sa vie. Donc, je vous le recommande.
Oui, t'es la deuxième personne qui me dit d'écouter ce film. Bon. Johnny, entre autres, disponible sur la plateforme Netflix. Ariane Delacombe, on termine avec toi.
Oui, on reste dans le Netflix. Moi, j'ai écouté le film The Wonder du réalisateur Sébastien Lelio. Puis je recommande le film parce que j'ai trouvé que c'était un bon film. J'ai apprécié l'écouter. C'est un film avec un sujet quand même assez lourd. Ça se passe en Irlande après la famine. Puis c'est une infirmière anglaise qui est envoyée en Irlande pour évaluer si une jeune fille qui apparemment ne mange plus depuis 4 mois est réellement une miraculée ou s'il s'agit finalement d'une grosse mise en scène. Donc, je suis moi-même pas certaine de ce que je pense au final du film. Ça m'a beaucoup habité, mais j'invite les auditeurs quand même à l'écouter parce que c'est un bon film, puis à nous écrire si qu'est-ce qu'ils en pensent, puis aussi beaucoup d'une perspective chrétienne. Je ne sais pas si j'aime ça finalement ou si je ne suis pas d'accord ou quoi en penser. Okay. Fait que aidez-moi à décider, s'il vous plaît.
En tout cas, tu as réussi à piquer ma curiosité. Merci beaucoup, Ariane. Et merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter cette émission en format balado ou vidéo en tout temps sur Facebook et YouTube. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie Ariane Blais-Lacombe à la co-animation, Marc-Antoine Baudette à la technique. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.